enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Mais aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de gens posent. Et ça, c'est la question, si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance dans le monde? Si Dieu est bon, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu cette question? Levez la main. Est-ce qu'il y a des gens qui ont posé la question? Dieu, si tu es, tout le monde dit que tu es bon, mais si tu es vraiment si bon que ça, pourquoi est-ce qu'il y a tant de misère, tant de difficultés, tant de troubles, tant de souffrances sur la planète Terre? C'est une très bonne question. Et aujourd'hui, je crois que nous allons avoir la réponse à cette question. Et c'est important. C'est important parce que si votre image de Dieu, qu'est-ce que vous avez vraiment formulé dans votre tête, n'est pas la bonne image, ça va vous déranger, ça va nuire même à votre bonheur, ça va nuire à votre relation avec Dieu et votre capacité de marcher dans la victoire ici sur la terre. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion. J'ai mis pour vous quelques exemples, les pensées, les choses que les gens ont dit. Regardons, on va regarder un couple de choses. Ici, un monsieur Schopenhauer qui a dit, « Si un Dieu a fait le monde, je n'aimerais pas être ce Dieu, car la misère du monde me déchirerait le cœur. » Hein? C'est comme ça que les gens pensent. Regardons, quand l'estomac crie famine, qu'on a plus que la peau sur les os, l'argent est le seul Dieu qui puisse répondre à nos prières. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça aussi, c'est comme, bon, ils sont tannés de l'idée que Dieu est bon et oublient ça. Regarde tous les problèmes, le seul Dieu qui peut vraiment faire de quoi, c'est l'argent. Regarde, il y a d'autres choses. Quel est donc ce Dieu, un Dieu plein de bonté? Un Dieu plein de bonté trouverait-il du plaisir à se baigner dans les larmes? Est-ce que vous avez entendu les personnes dire les choses de même? Mais pourquoi est-ce qu'ils vont dire les choses comme ça? Pourquoi est-ce que... Et ça, c'est grave. Parce que dans un sens, c'est presque une accusation. Ils sont presque en train de pointer le doigt vers Dieu quand ils voient un problème, quand quelque chose arrive qui n'est pas bon, quand la misère, quand les accidents, la souffrance, la maladie, la guerre, et vous pouvez remplir les blancs. Toutes les autres mauvaises choses qui peuvent avoir lieu sur la planète Terre, quand ça arrive, les gens sont tentés à pointer le doigt vers Dieu et dire, « Mais Dieu, aimes-tu ça vraiment? T'aimes ça, hein, te baigner dans nos larmes? T'aimes ça, voir notre misère? » Mais c'est pas du tout qu'est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? C'est parce qu'ils ne comprennent pas qui Dieu est. Ils ne savent pas comment Dieu fonctionne. Et parce que ils ont cette idée que, ok, bon, s'il est vraiment Dieu, c'est lui qui est en contrôle de toutes choses et tout ce qui se passe sur la terre, c'est sa main qui agit et nous sommes comme des petites marionnettes et il nous manipule et chaque événement, c'est vraiment quelque chose que Dieu a planifié. Il y a même des églises, laisse-moi vous dire, des églises chrétiennes qui vont vous enseigner que tout ce qui se passe sur la planète Terre, c'est la volonté de Dieu. Et c'est de là où viennent ces accusations contre Dieu, parce qu'il voit quelque chose, et dit, bon, que ça soit bon, que ça soit mal, ça doit être Dieu, parce que Dieu est tout-puissant. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est tout-puissant. Et il parle de qu'est-ce qu'on appelle ça la souveraineté de Dieu. Moi, je crois à la souveraineté de Dieu. Et on va voir tantôt jusqu'à quel point je crois à cela. Que Dieu est souverain. Tout le monde dit, Dieu est souverain. C'est-à-dire que Dieu est au-dessus de tout et il peut dire et faire qu'est-ce qu'il a décidé de faire. Vous êtes d'accord? Dieu est Dieu. Mais quand même, on voit toute la misère, on voit les problèmes. Il y a quelques années, on a eu les tsunamis. Vous vous rappelez de cela? En fait, j'ai une image des enfants. C'est difficile même à regarder ces images, n'est-ce pas? De savoir que plusieurs de ces enfants ont sûrement perdu leurs parents et ils sont égarés, ils cherchent à avoir de l'aide. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement dans l'image, mais peut-être que c'est un avion qui passe par-dessus. Mais on voit, ils sont dans la misère et c'est difficile. On voit cela. Et si nous croyons que Dieu est en contrôle de, et c'est Dieu qui va orchestrer chaque événement sur la planète Terre, c'est facile de comprendre comment quelqu'un pourrait pointer le doigt à Dieu et l'accuser d'aimer se baigner dans les larmes. Mais regardons mieux qu'est-ce que quelqu'un a écrit. Tsunami et Dieu, j'ai trouvé ça sur Internet. Les tsunamis ont parlé. Dieu, où es-tu? Pas de réponse. On voit bien, il n'y a plus de Dieu. Il est bel et bien mort. Dieu, amour, quelle blague. Ça, c'est comment les gens vont répondre quand ils voient les événements. Et dans un sens, je les comprends. Parce que pendant des années, ils ont été enseignés ou ils ont entendu que Dieu est en train de contrôler chaque événement sur la planète Terre. Ils continuent et ils disent ceci. Dieu existe ou n'existe pas? S'il existe, il devrait être tout puissant. C'est ce qu'on a toujours dit. Vois-tu? C'est ce qu'on a toujours dit. Et s'il est tout puissant, il ne devrait pas permettre le mal. Or, le monde n'est pas seulement plein de rires d'enfants, il est également plein d'enfants qui meurent de faim et de mille autres horreurs, et Dieu ne fait rien pour arrêter ça. Ça, c'est comment les gens pensent, mais on va voir aujourd'hui, c'est pas vrai. Dieu a fait beaucoup pour arrêter les choses, et on va voir cela. Il ne fait rien pour arrêter ça, donc Dieu n'existe pas, et s'il existe, il est cruel. Avez-vous entendu cela? Et encore, je ne suis pas en train de critiquer ou de blaster les personnes qui ont écrit les choses comme ça. Il y en a souvent des personnes qui sont sincères. Et ils ont vu la misère et ils ne comprennent pas. En tout cas, il n'est pas tout puissant et s'il n'est pas tout puissant, il n'est pas Dieu. Voici qu'est-ce que beaucoup des personnes dans notre belle province, ils pensent comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont rencontré des personnes qui pensent comme ça? Levez la main, j'aimerais voir votre main. Donc, pour eux, c'est une farce. Dieu, c'est une blague. Ça, je ne peux pas que Dieu existe, ou s'il existe, il doit être cruel. Mais regardons, il y a une autre chose qu'on va voir, si on continue le prochain diapo. On voit quelque chose. C'est que, selon la parole de Dieu, en Jacques chapitre 1, verset 13, « Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire. Et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Soulignez cette phrase, ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir qu'on soit et donne naissance au, quoi? Péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes chers frères. Tout don, quoi? Excellent, et tout cadeau parfait descend du ciel. Donc, si vous avez quelque chose qui est excellent et quelque chose qui est parfait, ça vient du ciel. OK? Il vient de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas. Tout le monde dit, Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre par des variations de position. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu ne change pas de position. Une fois que Dieu a pris position sur une chose, une idée, un concept, sa volonté ne change pas, sa façon de penser d'une chose ne change pas. Dieu est parfait. Et tout don excellent, tout don parfait vient de lui, n'est-ce pas? Et Dieu ne change pas, il ne produit pas d'ombre par ses variations de position. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Donc, on voit plusieurs choses. Juste quatre choses brièvement ce matin, pour commencer, pour vraiment ouvrir cette conversation de si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance. Pour bien répondre à la question, il faut comprendre quatre choses premièrement. Regardons ceci. Dieu est bon. Tout le temps et à 100%. Regarde quelqu'un a dit, Dieu est bon tout le temps. Et regarde l'autre personne a dit, et à 100%. Dieu n'est pas dans la confusion. Dieu n'est pas, laisse-moi vous dire une chose, Dieu n'a jamais eu une mauvaise journée. Et des fois, on dit, bon, mais ça a commencé mal la journée, hein? Est-ce que je peux recommencer? Dieu n'a jamais eu une mauvaise journée. On a eu des mauvaises journées. Mais Dieu n'a jamais eu une mauvaise journée. Et Dieu, laisse-moi vous dire une affaire. Dieu n'a jamais été surpris. Parce qu'il connaît toutes choses, n'est-ce pas? Il n'était jamais surpris. Et qu'est-ce qu'on voit dans la parole du psaume 34, 8 dit, « Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. » Si vous goûtez à Dieu, vous allez constater que Dieu est bon. C'est comme quelqu'un qui vient au Québec pour la première fois, il va goûter à la poutine, il va constater tout de suite, « Elle est bonne. » Et sinon, la personne n'est pas un vrai Québécois, hein? Je dis souvent à mes amis qui viennent nous visiter des autres pays, ça c'est le test, hein? Vous allez essayer une poutine et si vous aimez ça, ça se peut que vous pourriez survivre au Québec et avoir une belle vie au Québec. Mais si vous n'aimez pas ça, vous êtes sûrement appelé ailleurs. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Dieu est bon! Tout le temps! Et à 100%! Alléluia! Oui, mais si Dieu est bon tout le temps et à 100%, pourquoi tant de misère? Attendez, on va arriver là. Tout ce que Dieu a créé est bon! Sans exception, Dieu n'a jamais créé quelque chose qui n'était pas bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Pas juste un peu, mais très bon. Tout le monde dit très bon. Oui. Il est le rocher, ses œuvres sont quoi? Parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et il est droit. Ça, c'est notre Dieu. N'est-ce pas bon de penser à ça? Puis, troisième chose, c'est le péché qui a ouvert la porte à la souffrance sur la terre. C'est le péché. C'est le péché. On va voir un peu plus tard dans le message pourquoi, mais juste pour tout de suite, je veux que vous sachiez que c'est pas Dieu qui a introduit le péché dans le monde, c'est pas Dieu qui a introduit la souffrance dans le monde, c'est nous, les êtres humains, nous avons ouvert la porte à la souffrance, à la mort et à la misère. C'est nous qui avons pris la décision de le faire. Genèse 3, 17, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, » quelqu'un va dire, « C'est ça le problème, on ne devrait jamais écouter sa femme. » Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas écouté Dieu, hein? Souvent, messieurs, laissez-moi vous dire, ça vaut la peine d'écouter nos épouses, hein? Donc, ça. Amen. Ceux qui étaient à la réunion des hommes hier, on a parlé de plein de choses aussi. Mais il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, ça c'est le problème, je t'en mangerai point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et tu vois cela? Intéressant que le monde était parfait avant que Adam et Ève ont péché. Et si on peut regarder, j'ai quelque chose, hein? Il se produira des épines. Avant la chute d'Adam, il n'y avait pas des épines. Les roses étaient sans épines. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est grâce à grand-papa Adam et grand-maman Ève qu'aujourd'hui, il faut faire attention avec les roses. J'ai pas de l'amertume dans mon cœur contre eux, hein? Parce que moi aussi, je suis venu au monde infecté par le péché. Moi aussi, j'étais pécheur, séparé d'avec Dieu. On va voir cela. Mais regardons cela. On voit qu'est-ce que Jésus a dû porter, hein? Une couronne faite avec ses épines. Donc, on voit que quand quelqu'un dit, mais Dieu ne fait rien, il bouge pas. Il y a tant de misère, il y a tant de souffrance, il ne bouge pas. Il fait rien pour arrêter ça. Regarde qu'est-ce que Jésus a fait pour arrêter ça. Nous avons péché, nous avons désobéi, nous avons dit non à Dieu et oui à nos désirs. Et Jésus, au lieu de nous crucifier. Au lieu de nous faire souffrir, elle dit, bon, ça va faire la souffrance sur la planète Terre. Je vais sauver mon peuple. Je vais prendre les épines qui ont poussé grâce à la désobéissance d'Adam et je vais porter ça sur ma tête. Je vais porter leur péché sur moi. Jésus a fait quelque chose pour arrêter la souffrance dans le monde. Amen. C'est lui qui a souffert à notre place. Mais quand même, le monde, sans Jésus et sans espoir, regardons Romains 5, 12. Résumons, par un seul homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde. Comment est-ce que le péché est entré? Par un seul homme, Adam. À sa suite est venue la mort, qui a étendu sa domination sur toute l'humanité. Aucun homme n'a encore réussi à se soustraire à son pouvoir, car aucun n'est libre du péché. Personne, par sa propre force, est capable de se libérer du péché. C'est impossible. C'est pourquoi Jésus avait besoin de porter nos souffrances. Amen. Puis, quatrième chose ce matin, il y a deux forces qui sont à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. C'est pas juste maintenant la force de Dieu, c'est pas juste la force du bien et d'amour. Il y a aussi une autre force qui est à l'œuvre. La force des ténèbres est à l'œuvre aussi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Que même si Dieu est tout puissant, et Dieu veut faire du bien à sa création, il y a un autre être spirituel qui veut nous faire du mal. Et le monde qui a été infecté par le péché, juste l'environnement que nous vivons, c'est déjà infecté par le péché. Il y a deux forces qui sont à l'œuvre. 1 Jean 5, 18 dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » N'est-ce pas une bonne nouvelle? « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier, le monde entier, est sous la puissance du malin. » Laisse-moi vous dire, toutes les guerres, toute la souffrance, toute la misère, les meurtres, tous les viols, tout le sida, toutes les choses que nous voyons qui sont tellement, tellement horribles, c'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du péché qui agit dans l'atmosphère et c'est souvent aussi l'œuvre du malin. Et tout le monde entier, c'est pas moi qui l'invente ici ce matin, je lis la Bible. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier n'est pas sous la puissance de Dieu ce matin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et on va voir pourquoi et comment. Regardons ceci. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. » Dieu est bon à 100%, mais le diable est méchant à 100% aussi. Et le diable, il prend plaisir à se baigner dans les larmes de la souffrance. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Psaume 89, 11 dit, « C'est à toi qu'appartient les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ceux qui renferment. » Ça veut dire, mais je comprends pas. Tu viens de dire que le monde entier est sous la puissance du malin. Et là, tu as dit que la terre et les cieux appartiennent à Dieu. Il y a une différence ici. On peut être propriétaire d'un logement, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un signe un bail, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre possession du logement, n'est-ce pas? Il y a peut-être des personnes ici qui ont eu l'expérience d'être propriétaire d'un logement et vous avez loué votre appartement à quelqu'un d'autre. La personne a signé un bail. Légalement, la personne avait le droit de rester là-dedans, mais tu savais que... Qu'est-ce que la personne faisait dans ton appartement te faisait pas plaisir? Tu savais qu'il faisait pas attention et que les murs étaient en train d'être méganés, puis il y avait la peinture qui partait, il y avait des choses qui étaient renversées, les dégâts partout, peut-être, je ne sais pas, ils avaient des animaux qui faisaient leurs besoins dans l'appartement, etc. Mais le gars avait le droit légalement d'être dans ton appartement. Il n'est pas le propriétaire. C'est pas à lui la part, mais à cause du régie même, on a des régies qui protègent les droits des locataires, et ça c'est une bonne chose, normalement. Sauf que des fois, c'est moins bon quand le locataire fait pas attention, vous êtes d'accord? Laisse-moi vous dire, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous allons voir dans les prochaines quelques minutes, c'est que Dieu est le propriétaire de la planète Terre. C'est à lui la Terre. Les cieux lui appartiennent. Mais aujourd'hui, il y a un bail spirituel qui a été signé, si vous voulez. Et Satan a pris possession de ce système du monde. Et c'est pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que vous me suivez? Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et les monts se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. J'aime ça. Est-ce que vous aimez ça? Donc, cette chose qu'il faut que vous sachiez pour répondre à la question. Pourquoi il y a tant de souffrance? Numéro un, Dieu est tout puissant, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Ça, c'est une contradiction, n'est-ce pas? Dieu est tout puissant, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Oui, Dieu est tout puissant, il est souverain, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. La Bible dit ici dans le verset, en Hébreux chapitre 6, 17, c'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité. Ça veut dire que ça ne peut pas être changé. De sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, deux choses qui ne peuvent pas changer, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Autrement dit, il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir. Impossible. Dieu est tout puissant, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas être méchant. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et Dieu n'est jamais menteur, il n'est jamais méchant, et Dieu ne change jamais. Amen? Numéro 2, dans sa souveraineté, il nous a donné le pouvoir de choisir. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est souverain? Si Dieu peut faire ce qu'il veut, est-ce qu'il peut nous donner le pouvoir de choisir? Allô? Ce n'est pas une question de piège. Dieu est tout puissant et Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que la création, les êtres humains que je vais créer et mettre sur la terre, ils vont avoir le pouvoir de faire leur propre choix. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas avoir des robots. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je te loue, Seigneur, je te loue. Marie, aimez vos femmes. Je t'aime, chérie, je t'aime. Pardonnez-vous réciproquement, je vous pardonne. On manque quelque chose, n'est-ce pas? Mesdames, est-ce que vous aimeriez ça? Hein? Un robot pour comme Marie? Messieurs, aimeriez-vous avoir un robot pour comme épouse? Non, tu veux quelqu'un qui t'aime parce que elle est en amour avec toi. Et Dieu voulait un peuple qui est en amour avec lui. Donc, dans sa souveraineté, Dieu a donné le pouvoir de choisir à chacun de nous. Regarde, on a juste un exemple, Deutéronome 30, 19. « Je ne prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu. » Vois-tu, c'est ça qu'il veut. Pour aimer, il faut choisir d'aimer Dieu. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Donc regarde bien, Dieu a créé l'homme et dans sa souveraineté, il lui a donné le pouvoir de choisir. Et c'est pourquoi même, il a donné le choix à Adam et à Vision. Dieu a dit à eux, regarde, dans le jardin ici, c'est beau. On a du fruit en masse. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre dans l'abondance. La seule chose que je vous demande de ne pas faire, c'est de manger de cet arbre ici, de la connaissance du bien et du mal. Mangez de toutes les autres affaires. Est-ce que vous voyez la bonté de Dieu? Il dit, wow, mange tout! Mais il fallait quand même avoir le choix. Parce que sinon, il fallait que le choix soit là. Dieu a besoin d'un peuple qui choisit de l'aimer et qui choisit de l'obéir. Hein? Imaginez si tu étais, si, encore mesdames, si tu étais la seule femme sur la planète Terre. Il n'existait pas une autre femme. Et puis, ton mari dit, mais tu sais, tu es la plus belle femme au monde. Et tu sais, ma belle, c'est toi que j'ai choisi. On rêve, bon. Il y a quelque chose qui manque, vous êtes d'accord? Donc, Dieu a placé dans le jardin tous, il y avait une multitude de choix, des choses à manger. Il y avait juste une chose qu'il ne fallait pas toucher. C'est quoi qu'ils ont touché, ça? C'est dans la nature humaine, c'est dans la nature pécheresse. Laisse-moi vous dire, mon chien a cette nature aussi. Mon chien n'a pas le droit de monter sur le plancher au rez-de-chaussée, donc il reste au sous-sol. Mais lui, il est toujours couché sur la dernière marche. Et de temps en temps, souvent, il va mettre une patte sur au rez-de-chaussée. Et à l'occasion même, il va mettre les fesses. Ses pattes sont sur la marche et ses fesses sont sur... Ça, c'est juste comme nous, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas touché, Seigneur! OK, il fallait vous réveiller un peu, hein? Numéro 3. Dieu a donné son autorité à l'homme pour assujettir la terre. Donc, Dieu a créé la terre, les cieux, tout ce qui est là-dedans, et c'était beau, magnifique, une place d'abondance. Dieu a donné le pouvoir de choisir à l'homme, et puis il a donné l'autorité. C'est comme les clés qui représentent l'autorité, hein? C'est quelqu'un qui a une clé pour la banque, c'est parce qu'il a l'autorité pour aller à la banque, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a la clé pour votre auto, c'est parce qu'ils sont autorisés pour aller dans votre maison. Donc, Dieu a donné, si vous voulez, la clé, l'autorité à Adam et à Ève pour assujettir la terre. Dans un sens, le Dieu Tout-Puissant a fait de Adam et Ève, si vous voulez, les dieux des minuscules, pas majuscules, les dieux de ce terre, le Dieu de ce monde, ceux qui étaient en charge. C'est ça qu'il est marqué dans la parole de Genèse 1. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Donc vous voyez, Dieu n'a pas dit, bon, je vous place dans le jardin et je vais tout faire pour vous. Je vais cultiver le jardin. Je vais dominer les animaux. Il a dit, non, je te donne l'autorité, je te donne les clés, je te passe le bâton. Adam, Ève, c'est à toi de prendre charge de la planète Terre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette autorité? Ils ont tourné de bord et quand le Satan est venu les tenter, numéro 4, la trahison d'Adam a fait de Satan le dieu de ce siècle. Ils ont pris les clés que Dieu les a confiés et en obéissant, parce qu'ils ont décidé, ils ont choisi de ne pas obéir à Dieu, ils ont dit, OK, Satan, je décide, je choisis de ne pas écouter Dieu, je t'écoute, voici les clés. Et le moment même qu'il a pris les clés, savez-vous qu'est-ce que Adam et Ève ont expérimenté? La mort spirituelle. Dieu a dit, la journée que tu manges de ce fruit, vous allez mourir. Mais pas physiquement, juste ça, mais spirituellement. La mort spirituelle, c'est d'être séparé d'avec Dieu. C'est pourquoi ils avaient peur, ils se sont cachés. Donc, tout de suite, Satan a pris les clés, et puis il a pris Adam et Ève, ils les ont mis en prison, barré la porte à clé, prisonnière. Le monde entier. Et tous ceux et celles qui sont nés, qui sont les descendants d'Adam et Ève, tous ceux qui sont venus au monde depuis Adam et Ève, sont en prison spirituelle, séparés d'avec Dieu, sous la puissance du malin. Quelque chose, n'est-ce pas? Mais regarde bien, voici la bonne nouvelle. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais 2 Corinthiens 4, 3 dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, soulignez cette phrase, le Dieu de ce siècle, ça parle de Satan, a aveuglé l'intelligence. » Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, on sait que Adam et Ève ont donné les clés à Satan. Mais voici la bonne nouvelle, numéro 5. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Quand quelqu'un dit, Seigneur, tu bouges pas, tu fais rien. Ça, c'est un mensonge. Dieu a tout fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a dit, je peux pas laisser mon peuple en prison sous la puissance du malin. Je vais envoyer mon propre fils. Puis, celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Le fils de Dieu est apparu afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. Mais numéro 6, Dieu avait besoin de vaincre Satan d'une façon légale. Vous avez quelqu'un dans votre appartement qui fait des dommages, qui a des parties à tous les jours et laisse traîner les choses et vous savez que votre propriété est en train d'être vraiment détruite. Vous n'avez pas le droit de le mettre dehors comme ça. N'est-ce pas vrai? Il faut être légal, sinon ils vont contacter la régie, n'est-ce pas? Et vous, en tant que propriétaire, vous allez avoir du trouble. Il faut suivre un processus. Si tu vas mettre quelqu'un dehors, il faut suivre le processus légal. Vous êtes d'accord? Savez-vous quoi? Jésus avait besoin de suivre le processus légal pour mettre Satan dehors. Pourquoi? Parce que légalement, Dieu a donné les clés à Adam et Ève. Et légalement, Adam et Ève ont donné les clés à Satan. Donc Satan, il tenait les clés, mais il avait le droit d'avoir ces clés. Pas le droit moral, mais le droit légal. C'est celui qui m'a donné les clés. Tu as confié cette autorité à Adam et Ève, et légalement ils me l'ont donné, ils m'ont obéi. Tu n'as pas le droit de me l'enlever juste comme ça. C'est mes prisonniers. Ils sont destinés, condamnés à la mort. Mais Jésus a dit, ok, bon, c'est un homme qui a péché, je vais envoyer un homme pour payer le prix. Si ça prend un homme, si ça prend du sang pour payer le prix, je vais envoyer mon propre fils. C'est lui. J'ai préparé un corps pour lui. Le sang qui va couler dans ses veines, c'est un sang précieux. C'est pas un sang qui est infecté par le péché. C'est un sang qui va purifier tout le peuple de tous leurs péchés. J'aime ce verset en Romains 3, 23 qui dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tout le monde dit gratuitement. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, soulignez cette phrase, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propriatoire. Le mot propriatoire veut dire un substitut qui est acceptable. Imaginez quelqu'un qui est condamné à une chaise électrique, qui doit mourir pour ses crimes, mais quelqu'un arrive et dit, « Ah non, c'est pas lui qui va mourir, c'est moi qui va mourir à sa place. » C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Il était notre victime propriatoire, notre substitut acceptable, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Savez-vous quoi? Dieu, légalement, ne pourrait pas juste dire, c'est pas grave. Adam et Ève et la race humaine, c'est pas grave. Vous avez désobéi, vous avez péché, c'est pas grave. Non, c'est très grave. Ça méritait la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un doit mourir. Quelqu'un doit verser son sang. C'est pourquoi il a dit, je vais vous pardonner, je vais vous justifier, je vais vous sauver, mais il faut que je le fasse légalement. Comment? Je vais devenir un homme. Je vais prendre votre place et je vais reprendre les clés. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Combien de vous êtes contents que Jésus a pris notre place? Puis, finalement, numéro 7. Jésus a repris l'autorité qu'Adam a perdue et il nous l'a confiée. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus est venu, il a écrasé la tête de Satan. Mais laisse-moi vous dire, il a enlevé ses dents. mais il est quand même comme un lion rugissant. Il a quand même, le bail n'est pas à 100% terminé pour Satan. Il a toujours le droit d'être ici, dans l'atmosphère. Il est encore là, il fait encore ses œuvres. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour ceux et celles qui connaissent Jésus, nous avons reçu les clés. Nous avons reçu, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes clés, j'ai perdu mes clés, voilà. Wouh! Faut jamais perdre les clés. Hein? Il a dit, et regardons le prochain verset ici, Matthieu 28. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire qu'avant sa mort, avant sa résurrection, il n'avait pas tout pouvoir sur la terre. Pourquoi? Parce que Adam l'avait donné à Satan. Mais maintenant, tout pouvoir, exousia, autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit, j'ai reçu toute autorité et je te le donne. J'ai repris les clés de Satan, je te les donne. Maintenant, utilise-les. Utilise-les. Savez-vous quoi? Que nous sommes mandatés par le Dieu Tout-Puissant d'aller dans toutes les nations et de prêcher la bonne nouvelle et de libérer les captifs. On peut prendre autorité sur les œuvres de Satan. On peut arrêter les œuvres du diable dans beaucoup de cas. Amen. Le monde va toujours être infecté par le péché jusqu'au retour de Jésus et jusqu'à la nouvelle terre, la nouvelle cieux. Mais on peut prendre possession de la terre que le Seigneur nous a donnée et avec autorité, on peut arrêter les œuvres du diable dans notre vie, dans les vies de ceux qui nous entourent. Pourquoi? Si Dieu est si bon et est-ce qu'il attend la souffrance, c'est facile. La souffrance, le mal, la misère, c'est parce que il y a un ennemi qui a un bail sur la planète Terre. Mais gloire à Dieu, le propriétaire a repris les clés et nous sommes en train de libérer les captifs et un jour bientôt, le propriétaire revient sur la terre. Et nous allons régner avec lui et ce sale type qui a pris possession et qui a fait tout le temps de dommages dans les choses qui appartiennent à Dieu, il va être lié et jeté dans l'abîme. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc Jean-Charles, si tu peux venir au clavier ce matin. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle? J'espère que ça a répondu à quelques questions. Mais j'aimerais juste, avant de terminer aujourd'hui, prendre quelques minutes de plus. Parce que savez-vous quoi? Selon le verset qu'on a lu, le monde entier est sous la puissance du malin. Et la plupart du monde ne savent même pas qu'ils sont sous la puissance du malin. Ils savent même pas. Beaucoup de gens pensent que tout est beau, tout est correct. Ils disent, bon, je suis une bonne personne, je suis gentil, je suis sympathique, je vais à l'église, je prie, je lis une Bible, ou je n'ai jamais fait mal aux autres. Mais ce matin, j'ai fait un engagement qu'à chaque dimanche, je vais donner l'occasion à ceux et celles qui ont besoin de connaître Jésus. Je vais vous donner une occasion de le connaître. Et juste pour les prochaines 5 minutes, on a fait beaucoup de choses ce matin. On a eu la Sainte Cène, on a eu des témoignages, etc. Mais pour les prochaines quelques minutes, je veux absolument que tout le monde ici présent sache au moins 4 choses. 4 choses qui sont tellement importantes pour chacun de nous de savoir. Parce que la Bible dit que tout le monde est sous la puissance du malin. Mais Dieu veut que tout le monde soit sous la puissance de Jésus. Dieu veut que tout le monde possède les clés. Moi, ce matin, je vais vous donner l'occasion de sortir d'ici avec un trousseau de clés. Amen. Mais j'ai même mis ces choses sur un petit PowerPoint pour vous ce matin. Je veux que vous voyez les versets vite, vite. Première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Jean 10:10 le dit. Il est venu pour vous donner une vie abondante. Laisse-moi vous dire que Dieu est bon à tout le temps et à 100% et il veut que vous ayez une belle vie. Amen. C'est son plan pour vous. Mais il y a un problème. Deuxième chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que à cause du péché, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Romains 3:23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sans exception, tous. Il n'y a pas une personne qui est capable d'aller au ciel sur ses propres mérites. Impossible. En fait, si on peut regarder l'image ici, le péché nous a séparés avec Dieu. Là, on voit l'homme qui est séparé, qui est infecté par le péché, qui a besoin d'être en union avec Dieu, mais il ne peut pas parce qu'il y a comme une séparation. Le péché l'a séparé, il ne peut rien faire. Et qu'est-ce qu'on voit? La troisième chose que vous avez besoin de savoir, c'est que Jésus-Christ est le seul remède pour le péché de l'homme. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et nul ne vient au Père que par moi. Tout le monde a besoin de traverser. Tout le monde a besoin d'être en communion avec Dieu, sans exception. Mais la seule façon d'y aller, je veux que vous voyez cela, c'est de traverser le pont que Dieu a fait, qu'il nous a donné en Jésus-Christ. On peut essayer de faire notre propre pont avec nos bonnes œuvres. Dire, mais moi, je pensais toujours que j'étais une bonne personne. Les bonnes pensées ne peuvent pas vous amener à Dieu. Vous avez peut-être vous dites, mais oui, mais j'ai jamais fait mal aux gens, j'ai aidé beaucoup de gens. La Bible dit que par les œuvres de la chair, personne ne sera justifié. Mais je lis la Bible et je vais à l'église. Nulle part dans la Bible est-ce que c'est marqué que assister à l'église ou prier, lire la Bible peut vous sauver de vos péchés. Tous sont péchés, sont privés de la gloire. Et Jésus est le seul chemin pour ramener l'homme à Dieu. Amen. Romains 5, 8 nous dit ceci. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Vous n'avez pas besoin de vous changer vous-même pour être vraiment bon et gentil et sympathique pour aller au ciel. Il faut donner la chance à Dieu de vous changer. Quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a un autre verset que je voulais que vous voyiez. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Combien de vous êtes nés une fois dans la chair? Si tout le monde ne lève pas la main, on a un problème. Tout le monde ici, sans exception, a une date de naissance. Mais est-ce que vous avez une date de naissance spirituelle? Parce que la seule façon de traverser le pont, il faut naître de nouveau. Jésus l'a dit. Mais si on peut reculer un peu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est pas une bonne suggestion. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes toujours à la mauvaise côté. Séparé d'avec Dieu. Même si vous êtes gentil, sympathique, et tout le monde vous aime. Regardons bien. Il y a une autre chose que faut que vous sachiez. Que nous devons recevoir Jésus-Christ personnellement afin de naître de nouveau. Pour traverser le pont, c'est pas assez de dire, ah, je crois que Jésus est le seul pont. Mais si on reste de ce côté du pont, qu'est-ce que ça change? Il faut prendre une décision. Je vais accepter que Jésus est le seul moyen d'aller au ciel. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Regardons ceci. La question qui se pose aujourd'hui, où êtes-vous? Ici? Côté de la mort spirituelle. Savez-vous, la Bible dit que vous étiez morts dans vos péchés. La rébellion, péché, misère. Vous dites, mais je suis gentil! Il y a beaucoup de personnes gentilles, sympathiques, qui sont toujours morts spirituellement. Ils n'ont jamais traversé le pont. Est-ce que vous êtes ici ou est-ce que vous êtes là? Avez-vous passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle? Parce qu'un jour, vous allez être face à face avec votre Créateur. Et seulement ceux qui ont déjà pris le pont de Jésus-Christ vont être capables d'aller au ciel. C'est pas moi qui l'invente. Regardons qu'est-ce que Jésus dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jean 8, 24 dit quelque chose de très grave aussi. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Aujourd'hui, je vous aime tellement que je ne veux pas vous laisser quitter cette salle sans avoir l'occasion de traverser le pont, de passer de la mort à la vie. Vous dites, mais comment est-ce que je dois faire cela? Comment est-ce que je peux passer de la vie, de la mort à la vie? Ça, c'est la prochaine chose que nous allons voir. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est pas que c'est celui qui croit avec sa tête que Jésus est le Fils de Dieu, mais celui qui a le Fils, celui qui a reçu le Fils, personnellement, C'est lui qui a la vie éternelle. Et c'est seulement lui. Donc encore, pour passer de la mort à la vie, il faut recevoir Jésus. Comment? Et voici qu'est-ce qu'il faut faire, tout simplement. Quelques petites choses à penser. Acceptez par la foi que la vie éternelle est un don gratuit. Sachez que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Impossible. Vous pouvez aller à l'église 7 jours sur 7, comme j'ai dit la semaine passée. Si je passe la nuit chez McDo, je ne vais pas devenir un hamburger. Vous pouvez rester à l'église la journée longue, vous n'allez pas devenir un chrétien. Ça ne va pas vous faire passer de la mort à la vie spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, acceptez par la foi le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, 8, dit ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous, c'est le don de Dieu. Tout le monde dit le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous avons besoin de recevoir le cadeau. Puis, une fois qu'on reçoit par la foi et on croit par la foi que Dieu est le seul chemin, et quand je ne peux pas me sauver moi-même, il faut que je fasse l'autre chose. C'est ceci. Tournez-vous vers Dieu et changez la direction de votre vie. La Bible appelle ça la repentance. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Il faut reconnaître que je suis pas de la bonne côté. Je suis toujours dans le royaume des ténèbres. Je suis sous la puissance du malin et je savais même pas. Je marchais dans le mauvais sens, mais maintenant je vois que la croix est ici. Il faut que je tourne vers Dieu et je accepte Jésus-Christ. Luc chapitre 13. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. On parle de quelque chose de très, très, très sérieux ce matin. Amen. Puis, confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur qu'il est ressuscité des morts. Romains 19, regardons ce verset. En effet, si de ta bouche tu professes Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Savez-vous c'est quoi un Seigneur? Un Seigneur, c'est un patron, c'est un boss, c'est un maître. Donc, savez-vous, il y a beaucoup de gens qui pensent que, « Oh, je crois en Jésus, je crois en Jésus. » Mais la Bible dit que le diable lui-même, il croit en Jésus. Croire en Jésus n'est pas assez. Il faut confesser Jésus comme Seigneur. Maître, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, j'accepte ton sacrifice, je traverse le pont, et c'est toi qui vas diriger ma vie, c'est toi qui conduis, c'est toi qui prends le volant. Amen. Après cela, quatrième chose, soyez prêts à confesser Jésus devant les autres. Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous voyons là-dedans? Nous voyons que c'est pas assez juste de croire, c'est pas assez de garder notre foi à soi-même, que si on est vraiment prêt à accepter le sacrifice de Jésus, de passer de la mort à la vie, il faut être prêt à dire à tout le monde, « J'ai reçu Jésus. » Regardons qu'est-ce que Jésus a dit. Il a dit, en Matthieu 10, 32, « C'est pas moi qui invente ces mots. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Est-ce que ça, c'est assez clair? Souvent, c'est lors du baptême où on va dire, mais j'ai déjà été baptisé, mais la Bible dit ceci. Il faut croire et être baptisé. Moi, j'étais baptisé par mes parents quand j'étais nourrisson, mais je ne savais pas ce que je faisais. C'est mes parents qui ont cru, ils ont fait ça de bonne conscience, mais moi, j'avais besoin, quand j'étais rendu à la place où j'ai reconnu que je suis pas de la bonne côté, je suis dans la mort spirituelle, j'ai besoin de traverser le pont. C'est là où j'ai pris une décision d'accepter Jésus. Et j'ai pris une décision de me faire baptiser et de dire à tout le monde, je veux suivre Jésus. Posez-vous la question, si tu quittes la baptiste aujourd'hui et ton cœur arrête de battre, est-ce que, de quel côté? Regardons l'image encore une fois. Est-ce que c'est là? Peut-être c'est pas là. C'est pas grave. Vous vous rappelez l'image de la croix et l'abîme. De quel côté est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes ici ou là? Si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Dieu? Sinon, aujourd'hui c'est votre journée. Je vais vous donner l'occasion maintenant de faire ces choses, de croire que oui, Jésus a sauvé mon âme par son sacrifice. Je vais me repentir, changer de direction de ma vie et me tourner vers Dieu. Je vais confesser avec ma bouche que Jésus est mon Seigneur et je suis prêt même à le faire devant les autres. J'ai pas honte de Jésus. Je veux qu'il me confesse devant son Père. Je ne veux pas qu'il me renie. Donc ce matin, je vais juste vous donner l'occasion. Je vais taper mes mains une autre fois. Et si vous êtes là et vous avez besoin de traverser le pont, vous avez besoin de recevoir Jésus ce matin. C'est la chose la plus importante que vous pourrez faire. Je vais taper ma main. Si vous avez besoin de recevoir Jésus, juste mettez votre main dans l'air vite, vite, OK? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, oui, j'ai besoin de passer de la mort à la vie. Je pensais que j'étais correct, mais dans le fond, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je veux être sûr et certain sans aucun doute aujourd'hui, je veux être sûr. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui a besoin de donner sa vie à Jésus, levez la main quand je tape ma main. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une personne ici. Elle n'a pas honte de dire devant les autres non plus. C'est merveilleux. Je vais juste te demander à faire quelque chose. Juste de venir ici. On va prier avec toi. Si tu veux venir ici en avant. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour elle ce matin? Nous avons un cadeau que nous voulons t'offrir, mais je vais prier avec toi. Ton nom, c'est?
Geneviève.
On va remercier le Seigneur encore pour Geneviève. Savez-vous que ça prend du courage de faire cela. Mais c'est important parce qu'en faisant cela, on va faire une prière. Comme Romains 10 dit, tu vas confesser avec ta bouche le Seigneur Jésus. Tu vas croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si tu fais ça de tout ton cœur, le Seigneur va venir dans ton cœur et tu vas te naître de nouveau. Tu vas commencer une nouvelle vie. Tes péchés vont être effacés comme si tu n'as jamais fait quoi que ce soit de mauvais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de venir ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Moi, je sais une chose. La Bible dit que si un pécheur se répand, tous les anges des cieux se réjouissent. Donc, Geneviève, il y a une partie au ciel ce matin. Et c'est important cette journée parce que tu n'as pas honte de dire aux autres, moi, je crois en Jésus. Et Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Amen. Il y a d'autres ici. Je parlais de baptême tantôt. Je sais qu'il y a quelques-uns qui sont venus en avant dernièrement qui ont dit, bon, juste ce matin, je veux me faire baptiser. Donc, laisse-moi vous dire, ce matin, s'il y a des gens qui veulent se faire baptiser, peut-être on devrait le faire dans les prochaines une ou deux, trois semaines, je ne sais pas, il faut regarder le calendrier. Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui n'ont jamais été baptisés, qui veulent se faire baptiser dans l'eau? J'aimerais que vous veniez ici avec Geneviève ce matin. Juste venez en avant. On va le faire là. Et j'avais vraiment dans mon cœur, on va faire un service de baptême bientôt. Il y a plusieurs, viens, c'est ça. Oui. Oui, vous êtes déjà venu pour le, ça c'est pour le baptême. Geneviève est venu pour donner sa vie à Jésus. Les autres sont venus parce qu'ils veulent se faire baptiser. N'est-ce pas merveilleux? Et qu'est-ce qui est important, Geneviève et tout le monde? C'est pas une invitation de faire partie de juste de notre église. C'est pas notre église qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Il y a beaucoup de bonnes églises. Mais, je sais une chose, et même c'est pas obligatoire que vous soyez baptisé dans notre église, il faut que vous soyez baptisé au nom de Jésus, que ça soit ici ou ailleurs, mais laisse-moi vous dire une chose, le fait que vous allez publiquement dire aux autres, je me fais baptiser, ça va vous aider tellement dans votre vie spirituelle. Mais j'aimerais premièrement prier avec Geneviève, et j'aimerais que tout le monde prie avec elle. Et Geneviève, j'aimerais juste que tu répètes cette prière de tout ton cœur, OK? On va dire ceci, Père Céleste, je viens à toi, au nom de Jésus, et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Tu es mon patron, mon maître. Je crois de tout mon cœur que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité et qu'aujourd'hui, je suis passé de la mort à la vie. J'ai la vie éternelle. C'est un don gratuit. Je suis sauvé, pardonné, lavé, purifié. Je commence une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est merveilleux.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.